Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
Je reçois aujourd'hui dans l'émission Point de mire Mohamed Larbiawat, lauréat du prix des sciences morales et politiques 2006 de la Fondation Prince Louis de Polignac, décerné le vendredi 10 novembre 2006. La Fondation Prince Louis de Polignac, selon les vœux du prince Louis de Polignac, cofondateur avec Madame le juge Irène Dorel, a décerné le Grand Prix et 5 autres prix sur proposition des différentes académies abritées à l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques. Mohamed Larbiawat, bonjour.
Bonjour madame.
Alors, vous venez de recevoir le prix des sciences morales et politiques 2006 de cette fondation. Ce prix vous a été remis pour l'obtention d'une thèse d'État ès lettres et sciences humaines que vous avez soutenue en 2004 à la Sorbonne Nouvelle. Elle est consacrée aux problèmes frontaliers de la Tunisie depuis l'époque ottomane jusqu'à nos jours. Et c'est pour cette raison, pour ce grand travail de recherche, que vous avez été récompensé. Vous êtes chercheur au Centre de philosophie de la stratégie à Paris 4 Sorbonne et vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui a pour titre « Principes de la stratégie » aux éditions Lern, publié en 2003. Alors, la question des frontières, les histoires de stratégie du monde arabe n'ont aucun secret pour vous, Monsieur Awat.
Tout d'abord, je remercie la Fondation. C'est un honneur de recevoir ce prix. C'est un encouragement pour la frontière du monde arabe. Hélas, maintenant, on se pose toujours dans le monde arabo-musulman. Si la frontière s'efface en Europe, malgré tout, cette frontière existe encore dans le monde arabe. On essaye de l'étudier, de l'analyser pour abaisser un peu la contrainte de cette frontière.
Mohamed Larbiawat, quelles difficultés particulières avez-vous rencontrées pour faire ce travail de recherche?
C'est un travail qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. Parce que vous savez, la frontière, c'est vraiment définir un processus d'État. Alors, c'est la prérogative d'un État. Ce n'est pas facile d'obtenir les renseignements, ce n'est pas facile d'obtenir la documentation.
D'avoir accès aux archives.
Accès aux archives. Alors, c'est pourquoi j'ai mis un peu de temps pour avoir élaboré une thèse grande de 1260 pages.
Alors, pourquoi vous êtes-vous intéressé justement à ce sujet précis des frontières de votre pays? Vous avez la double nationalité, française et tunisienne.
Oui, j'ai la double nationalité, je suis citoyen des deux rives. Avant tout, je suis frontalier, je suis de Ben Gardan, c'est une ville coloniale.
Oui, qui est située où?
Qui est située à 36 km de la frontière tuniso-libyenne.
Oui.
Chaque frontalier à Ben Gardan vit la frontière. On peut dire la frontière, mais lorsqu'on vit cette frontière, lorsqu'il y a une ouverture, lorsque les voyageurs se déplacent sans problème, la frontière vit d'une manière. Mais lorsqu'il y a la fermeture de la frontière, alors là, le Ben Gardan souffre énormément.
Ça arrive souvent qu'elle soit fermée?
Avant, il y avait vraiment beaucoup de fermetures, mais maintenant, beaucoup moins. Et ce tracé a été régularisé et la documentation est remise aux Nations Unies. Alors là, il n'y a plus de problème.
Alors, on va revenir sur la constitution de ces frontières, de ces différentes frontières. Vous allez peut-être nous les présenter rapidement, ces frontières de la Tunisie.
La Tunisie a une forme longitudinale. À l'ouest, il y a l'Algérie. Dans le sud, il y a la Libye. Pour la façade maritime, il y a la frontière maritime longue de 1298 km. Bon, cette frontière ne pose pas de problème. Simplement, il y a eu le plateau continental avec la Libye. Et ce plateau continental a été résolu par la Cour de La Haye.
C'est-à-dire pour délimiter les zones, la frontière maritime.
Maritime. Alors, cette frontière maritime, maintenant, est réglée par la Cour de La Haye.
Oui.
Et le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a encore un peu de pétrole dans cette zone. C'est ça l'incident entre la Libye et la Tunisie pour le plateau continental. La Cour a tranché et la Libye maintenant est beaucoup plus favorable pour donner plus ou moins à la Tunisie quelques...
C'est fait ou c'est pas fait alors ?
C'est déjà fait.
C'est fait.
Oui, c'est déjà fait. Maintenant, le problème ne se pose plus.
Dans le cadre de l'Empire ottoman, les frontières actuelles n'existaient pas, bien sûr. Mais quel était donc le rapport de cet empire, de l'Empire ottoman, par rapport à cette province de Tunisie ?
On dit toujours qu'il n'y avait pas de frontière. Il y avait une frontière, mais c'est une frontière tribale.
D'accord.
Alors, les tribus, surtout dans le sud tunisien, il y a la confédération Ourghamba. Il y a des tribus. Oui. Au sein de cette confédération. Mmh. Et ces tribus-là qui vont essayer d'établir leur domaine de pacage, leur domaine, on est dans le sud, il y a beaucoup moins d'eau. Alors les points d'eau, d'autre part les routes des caravanières, c'est surtout aussi pour le pacage. Il y a des troupeaux.
Donc les tribus entre elles avaient des accords.
Entre les tribus, il y a des alliances et des accords. Et à partir de ce mécanisme, parce que c'est vraiment leur espace vital.
Mmh. Et ces accords reposent sur un droit ?
C'était autrefois le droit coutumier. Bon, la confédération Ourghamba avait entre Benghardan, Tetawin, Remada, jusqu'au sud, point sud, on peut dire jusqu'à Forsan. Les tribus libyennes étaient aussi atroces, étaient avec les Ottomans de la Libye. Parce que là, chaque province défend elle-même par les tribus. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que le dey d'Alger souhaite toujours avoir une portion du territoire
plus importante. Ils utilisaient donc les tribus
fiscales. Mm-hmm. Ils souhaitaient même avoir une frontière maritime vers l'Est.
Oui. Donc les tribus étaient utilisées pour participer à l'extension possible du territoire.
Oui, bon, si on peut dire, la première délimitation de la frontière, c'était en 1614. C'était la prémisse dans le processus pour résoudre le problème frontalier. Mais cette frontière de 1614 n'a pas pu rester elle-même. Il y a eu des alliances avec d'autres tribus. Et l'acte de 1614 n'avait pas de réalité.
Alors, vous avez travaillé sur les différents termes pour désigner la frontière. Vous avez travaillé sur toute l'évolution sémantique du terme pouvant désigner ce que nous appelons en français la frontière.
Oui.
Alors, quels sont les termes arabes ou dialectales
Alors, pour la terminologie de la frontière, exactement comme en français, on est passé du front vers la frontière, aussi la frontière zone. Bon, en arabe, on dit les awasm. Awasm, c'est une entité où on dit que cette place est fortifiée.
D'accord.
Et après l'awasm, il y a les thugur.
Oui.
Et thugur, c'était surtout...
Ça apparaît quand dans la langue ?
Dans la langue, très tôt, on trouve les thugours, même à l'époque byzantine.
D'accord.
C'était à partir de l'époque byzantine qu'on trouve les awasm et les thugours.
D'accord.
Alors on dit les thugours l'Iskandarie, les thugours d'Alexandrie. C'était à l'époque de la fondation d'Alexandrie. Mais il y a eu une évolution. Par exemple, pour les thugours, on ne parle plus des thugours. Autrefois, on parle le thagr de Bizerte, thagr ben Zart.
Oui.
Et thagr ben Zart a pris fin le 15 octobre, lorsque la Tunisie a récupéré Bizerte. Alors, on ne dit plus thagr ben Zart, on dit ben Zart tout court. Alors, cette évolution sémantique arrive pour dire houdout.
Oui, alors ça, c'est le terme actuel.
Le terme actuel, au moment où Houdoud était un concept juridique du droit pénal, le licite et l'illicite. Ce terme juridique du pénal est devenu un terme géographique. On dit la frontière, même pour le territoire des tribus, ça c'est votre had. Et cette terminologie, ça vient du had du couteau.
Le tranchant du couteau.
Le tranchant de couteau, on dit had.
D'accord. Hein?
Ainsi, vous voyez, on est parti d'une frontière zone.
Oui.
On arrive à une frontière linéaire.
Linéaire, même.
Et on arrive après.
Ah, bien avant la colonisation européenne.
C'était bien. C'était au
cette
début.
Cette évolution,
sous, sous le protectorat, est resté une frontière zone. Tout doucement, avec le temps,
mais...
cette frontière zone arrive à une frontière linéaire par les conventions. La convention de 1910. Oui. Ainsi, on arrive à avoir une frontière linéaire.
Alors, avant d'aborder justement la constitution de ces frontières linéaires en Tunisie, marquons une courte pause musicale et retrouvons Mohamed Larbi Hawat, lauréat du prix de l'Académie des sciences morales et politiques 2006 de la Fondation Prince Louis de Polignac. Nous retrouvons Mohamed Larbi Hawat, lauréat du prix des sciences morales et politiques 2006 de la Fondation Prince Louis de Polignac pour la thèse qu'il a soutenue en 2004 intitulée « Le problème frontalier de la Tunisie depuis l'époque ottomane jusqu'à nos jours ». Mohamed Larbi Hawat, comment la question des frontières a-t-elle évolué pendant la période du protectorat? On vient de voir un petit peu comment cela se présentait sous l'Empire ottoman, où c'était le droit coutumier des tribus qui participaient à délimiter des espaces. Et on a vu également que déjà à cette époque, les délimitations entre provinces de l'Empire étaient déjà des enjeux et que chaque baie cherchait à étendre au maximum son territoire. Alors, sous le protectorat, comment évolue cette question des frontières?
Avant tout, il faut savoir que la France était aussi bien en Algérie
qu'en
Tunisie.
Alors elle arrive en Algérie en 1830.
On arrive en 1830.
Et en Tunisie?
En Tunisie en 1881. Alors il y a des Français.
Avec une différence de statut qu'il faut peut-être qu'on rappelle.
Alors la différence de statut, la Tunisie c'est un protectorat.
Voilà.
Et l'Algérie est une colonie.
Voilà.
Mais l'administration française en Algérie défend l'Algérie. Et l'administration française en Tunisie défend la Tunisie. C'est vraiment parfois une guerre entre les deux administrations.
On
trouve dans les archives...
On retrouve donc la rivalité précédente.
La rivalité, une rivalité intense. Il y a même des mots parfois déplacés, comme « comment vous êtes là au nom de la France ?» Non, je suis là pour administrer un territoire, la Tunisie. Alors, vous savez aussi que la Tunisie était une porte vers le Sahara.
Oui.
Alors, la porte orientale vers le Sahara.
C'est bien difficile
arrive,
d'ailleurs de constituer...
On arrive vers le Sahara par le biais de la Tunisie plus facilement que par l'Algérie. Parce que l'Algérie, il y a une grande Sahara et la situation morphologique de la géographie physique donne... que la pénétration saharienne par la Tunisie est beaucoup moins difficile ou plus facile. Ainsi, chacun défend ce territoire, la rivalité.
Alors, c'est dans les années 1880, justement, les commissions administratives du protectorat français en Tunisie et de l'administration française en Algérie ont travaillé à l'élaboration de la frontière linéaire artificielle. C'est... Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de ces commissions, si c'est, comment elles se réunissaient, souvent, combien de temps ça a pris, en
Alors, les commissions, il y a eu plusieurs commissions. Pourquoi plusieurs commissions? Tout simplement parce que on fait un travail, le travail n'aboutit pas, alors on recommence de nouveau à zéro, et ainsi de suite, et c'est pourquoi les commissions, ça se multiplie jusqu'à l'infini. Dès qu'il y a un petit problème, on refait le processus.
Alors, à quoi l'administration française a-t-elle abouti au final pendant cette période coloniale?
L'administration française en Algérie pense que ce territoire français restera français jusqu'à l'éternité. Et la France ne quittera jamais l'Algérie. Alors, lorsqu'on essaie de gagner une portion de territoire, c'est pour la France. Alors là, c'est pourquoi l'administration française en Algérie était vraiment rigoureuse. Et d'autre part, ils ont les moyens. C'est le moyen de la force. Ils ont récupéré même des tribus tunisiennes. Bon, on lui demande d'accéder à la nationalité algérienne, française. Et ainsi, plusieurs tribus sont devenues des tribus françaises. D'autre part, il y avait le problème du phosphate. La région du nord de la Tunisie avait beaucoup de phosphate. Alors la
région frontalière avec l'Algérie.
Oui, avec l'Algérie, souhaite toujours grignoter un peu plus.
Pour avoir les gisements.
Pour avoir les gisements. Mais autre chose, c'est que cette région était riche sur le plan agricole. Il y avait le loued Mazerda. Mm-hmm. Alors il y a une vie économique. C'est de solliciter les gens pour asseoir un territoire plus
étendu.
Plus étendu,
c'est ça,
oui.
Alors, il y a eu des conventions, il y a eu un bornage précis de la frontière. Quelle forme avait-elle sous le protectorat?
Sous le protectorat, un travail magnifique était élaboré en 1910 avec la Tripolitaine ou Tripoli. En 1910, dans le sud-est de la Tunisie, le bornage a commencé par une convention entre la Tunisie et la Tripolitaine, mais dans les commissions, il y avait un seul Tunisien, le reste était des militaires français. La même chose pour le côté libyen, c'était des Ottomans. Alors cette convention de 1910 était une convention entre la France et les Ottomans. Mais la France essaye de donner l'aperçu international comme quoi c'est une convention entre la Tunisie et la Tripoli. Ainsi, il y a eu le bornage et cette frontière n'a pas changé depuis 1910.
Voilà, donc c'est
le problème
de constitution de la frontière de l'État tunisien.
Le problème du bornage de 1910, c'est dans le Sahara.
Alors, comment définir une frontière en plein désert? C'est la grande question de la Tunisie,
question,
de l'Algérie,
on revient
du Maroc,
toujours,
des
on revient
problèmes
toujours
frontaliers.
Aux tribus.
Oui.
La question tribale se pose. Mm-hmm. Alors, les tribus, lorsqu'ils savent que leurs ancêtres étaient là, mm-hmm. souhaitent toujours garder le point où leurs ancêtres ont campé telle année, ou bien aussi les puits. Ce puits-là a été creusé par telle tribu, il restera à cette tribu.
Donc en 1910, tout est à peu près délimité, les frontières sont linéaires, artificielles.
On est arrivé à une frontière conventionnelle.
Conventionnelle, comme dans toutes les autres parties du monde à peu près à cette époque. On y travaille, en tout cas, c'est l'évolution générale. Y a-t-il persistance d'incidents ou de problèmes frontaliers à ce moment-là?
Il y avait toujours.
Ça continue.
Parfois, c'était juste à cause de quelques chameaux qui ont
donc
passé.
Donc, des petits incidents entre les tribus habituelles.
C'est habituel, mais parfois, c'est régularisé à temps. Il n'y avait pas vraiment, entre la Tunisie et la Tripolitaine, il n'y avait pas vraiment de problème à partir de 1910.
D'accord. Ouais. Alors, comment évolue la question des frontières à partir du moment où la Tunisie accède à l'indépendance?
Alors, à l'accession de l'indépendance, le problème de la frontière se pose parce que la délimitation de 1910 avec la Libye, on a la borne 233. Vous savez, pour la Tunisie, l'accession à l'indépendance, c'était par étapes, c'était le système d'étapes. Le sud, c'est un territoire militaire. Mm-hmm. Les Français sont restés. Les Français sont restés aussi à Bizerte. Alors, Bizerte, comme vous le savez, la décolonisation de Bizerte, c'est une décolonisation tardive. Comment faire pour régulariser cette problématique de la frontière? En partant, la France a donné à la Tunisie une petite carte de rien du tout. Schématiquement, il y a 5 cm sur 10, une carte d'un État. Mm. C'est vraiment minuscule. Il n'y avait rien sur cette carte. Lorsqu'on achète un appartement ou on achète un domaine, on donne à celui qui va acheter, après, un plan bien déterminé avec tout ce qu'il faut. La France, lorsqu'elle est partie de la Tunisie, elle n'a donné qu'une petite carte de rien du tout. Les renseignements, c'était vraiment minime. Bourguiba souhaitait avant tout récupérer
un territoire plus important.
Et il pense que ce sera une étape et après il va demander le reste.
Ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs.
Dans le sud, non. La borne 233 a été, vous savez... Au fur et à mesure, on descend vers le sud, on va vers le Sahara. Et qu'est-ce que le Sahara? C'est le pétrole. Alors, le gisement de pétrole n'était pas loin. La France ne souhaitait pas donner à la Tunisie son effort, vient de découvrir le pétrole dans le Sahara. Alors, elle n'a pas souhaité donner au moment forçant. Qu'est-ce que forçant? C'était Lucien Saint qui était du protectorat français en Tunisie. C'est lui qui a construit le fort. Et on l'a appelé Fort Saint. Si c'était l'administration française d'Algérie, ils ne vont pas donner l'appellation à ce fort comme Fort Saint. Ils vont donner à un autre administrateur de l'Algérie, non pas de la Tunisie. D'autre part, il y avait aussi les factures, tout sur le plan des archives, on trouve les archives à Vincennes ou au Quai d'Orsay, comme quoi ce point-là, le point de la borne de 133, était une borne tunisienne.
Alors comment cela a-t-il été résolu? Au final, la diplomatie a dû réussir à un compromis. Il y a deux solutions
pour régulariser la frontière, ou bien par la voie militaire, ou bien par la voie diplomatique avec les négociations. Bourguiba a souhaité rester avec l'Algérie un pays frère. Même si on donne un kilomètre à l'Algérie, on ne le donne pas à un ennemi. C'est un frère, c'est un voisin. Vaut mieux avoir un voisin frère que d'avoir un voisin ennemi. L'essentiel, c'est que cette frontière-là, ça se règle par voie diplomatique, par négociation. Il y a eu des récompenses pour la Tunisie. On ne peut pas dire que la Tunisie a perdu. Non, elle n'a pas perdu. Elle a gagné l'estime de l'Algérie. Elle a gagné l'estime des Algériens, parce que bon nombre d'Algériens ont su les péripéties de la frontière. Pas mal de filles algériennes maintenant souhaitent épouser des Tunisiens. Et on a gagné une...
Il y a des raisons particulières à ces alliances matrimoniales aussi. Peut-être que les statuts des femmes sont différents.
Le statut de la femme en Tunisie est particulier. Mm-hmm. Il est favorable à la femme.
Il est plus favorable à la femme.
Beaucoup plus favorable. alors on récupère. Mmh. Et aussi sur le plan de l'agressivité, on trouve que le Tunisien, il est beaucoup plus docile, il est beaucoup plus aimable.
On ne sait pas ce qui se passe dans les têtes et dans les cœurs des jeunes filles aux alentours de la frontière.
Alors si on a perdu quelques kilomètres, on a gagné l'estime.
Alors, il y a donc une convention de bornage qui a tout mis à plat et vraiment pacifié les choses, non ? Dans les années 80,
tout est réglé. Tout est réglé en 1993.
93 ? Oui, ah, ça commence en 83, il faut encore 10 ans pour que tout soit...
Non, c'était, oui, c'était en 1993, c'était le problème éclos.
Le problème éclos. Et en quelque sorte, pacifié entre guillemets. Quels sont les apports des traités et conventions frontaliers justement sur le plan économique.
C'est ça le...
Dans l'exemple de la Tunisie.
Entre la Tunisie et, et l'Algérie, autrefois, la frontière était une zone morte.
Mm-hmm.
C'était vraiment le no man's land. J'ai mis peut-être plusieurs heures pour passer d'un point à un autre. De l'Algérie vers la Tunisie, j'ai mis beaucoup de temps parce que c'était une frontière morte autrefois. Il y avait vraiment beaucoup de misère, il y avait une pauvreté accrue. Personne ne veut investir dans ces coins parce que ce sont des zones à risque.
Et puis il n'y avait
et
pas
après,
grand-chose.
Tant que on conçoit que c'est une zone à risque, personne n'investit. Enfin, une fois le problème frontalier résolu, alors on essaye de donner un développement.
Alors, quel est le nouveau visage de cette zone frontalière ?
Alors, le nouveau visage de cette frontière, c'est une frontière florissante maintenant.
Entre l'Algérie et la Tunisie ?
Entre l'Algérie et la Tunisie. Cette zone, autrefois on dit la zone d'ombre.
Mm-hmm.
Avec cette zone d'ombre, avec le principe d'un fonds de solidarité, a essayé de donner un nouveau visage à cette zone. Ce n'est plus une zone d'ombre, mais c'est une zone économique. On ne peut pas dire que c'est une zone économique intense. Mais il y a une vie qui se renouvelle. Il y a pas mal d'écoles qui sont établies, que ce soit des écoles sur le territoire algérien ou bien sur le territoire tunisien. Le déplacement est beaucoup plus facile entre les Algériens et les Tunisiens.
Oui.
Si un troupeau dépasse la frontière, ce n'est pas bien grave. Par exemple, pour les points d'eau, il y a une vue commune.
D'accord.
Ce n'est plus chacun pour soi. Non, c'est une solidarité. C'est une solidarité entre les Algériens et les Tunisiens pour la joie de vivre.
Alors ça, c'est sur le plan, on va dire, politique, de bon voisinage, comme les conventions diplomatiques des frontières sont souvent aussi des accords de bon voisinage.
Il y a
des...
C'est ça,
donc,
c'est l'essentiel.
Ça, c'est l'aboutissement final de l'élaboration des frontières d'un État. Sur le plan économique, est-ce qu'il y a des échanges ? Est-ce que des Tunisiens vont travailler en Algérie ou ça ne se fait pas ?
Déjà, maintenant, il y a un renouvellement pour les routes. Entre l'Algérie et la Tunisie, il y a des routes. Il y a la nouvelle autoroute qui essaie d'être instaurée. Et avec les routes, le déplacement et la télécommunication, même pour les taxis, il y a un tissu économique qui est en train de se faire tout doucement, mais avec une sûreté. Il n'y a plus de peur.
Mohamed Larbiawat, il me reste à vous remercier d'être venu nous parler de l'élaboration longue des frontières de la Tunisie grâce à votre thèse pour laquelle, je rappelle, vous avez reçu le prix de l'Académie des sciences morales et politiques de la Fondation Prince Louis de Polignac le 10 novembre 2006.
Merci bien. Thank you.